Bonjour à chacun et à chacune. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour ouvrir ensemble la parole de Dieu. Je vous invite à l'ouvrir dans la deuxième lettre de Pierre, toujours au chapitre 1. Et pendant que vous cherchez, petit sondage. Qui a vu le film Exodus ? C'est le film sur la libération d'Égypte. Super. Qui n'a pas vu le film Exodus ? Voilà. C'était juste pour faire circuler le sang un peu. Le film Exodus ? Alors, je parle du nouveau. Ah oui, désolé. Ah oui, François, il y en a eu un nouveau. Ah oui. C'est vrai, pardon. Alors, je viens de m'asseoir à l'arrière de la voiture. C'était lors d'un covoiturage. Et puis après quelques minutes, il y a cette fameuse question habituelle, et toi, tu fais quoi dans la vie ? Je suis pasteur en formation. Et là, il y a deux sortes de réactions possibles. Ceux qui regardent avec des yeux un peu écarquillés, « Ah bon, t'es pasteur, toi ?» Parce qu'on est toujours étonné de rencontrer un pasteur, surtout si jeune, parce que normalement, les pasteurs, ils sont tous vieux. Et alors, cette première catégorie de personnes commence à poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Et puis il y a une autre catégorie de personnes qui lâchent un « Ah, c'est bien !» et passent rapidement à autre chose, et souvent c'est autre chose, c'est un long silence. Et le conducteur, cette journée-là, il faisait partie de la première catégorie. Et presque du tac au tac, quand il apprend que je suis pasteur en formation, il me demande « Ah tiens, puisque tu es pasteur, tu vas pouvoir m'expliquer quelque chose ?» Je viens de voir il n'y a pas longtemps le film Exodus, et à un moment donné, je ne comprends pas ce qu'ils font, ils mettent du sang sur la porte. Je dis « Ok, est-ce que tu as une heure et demie ?» Non, sérieusement, c'était vraiment super. On a pu parler du message de l'évangile, c'était une porte d'entrée formidable. L'autre passager qui était à sa droite, qui était juste devant moi, je ne voyais que sa capuche qui couvrait la tête, lui, il appartenait à la deuxième catégorie de personnes. Et à un moment donné, il brise le silence en lâchant un petit « Moi, je crois que ce que je vois. » De toute façon, on peut être sûr de rien. Et puis, à chacun sa vérité. C'est sûrement un discours que vous avez déjà entendu. Peut-être même déjà pensé. Et cette position, elle n'est pas nouvelle. Déjà, au temps des philosophes grecs, il y avait ce qu'on appelle le relativisme. Protagoras, c'est pas grave si vous oubliez son nom. Il est connu parce que c'était un philosophe du 5e siècle avant Jésus-Christ. JB, tu me dis si je dis des bêtises. Hein. Et il est célèbre pour avoir prononcé cette phrase « L'homme est la mesure de toute chose ». Et dans sa pensée, la justice, la morale, la vérité sont toutes relatives. À chaque homme se fait alors sa propre vérité, sa propre morale, sa propre justice. Et quand on parle à nos voisins ou alors à nos covoitureurs et qu'on affirme que la Bible est la parole de Dieu, c'est presque un sacrilège. Impossible d'affirmer ça. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est naïf. On ne peut pas connaître la vérité. Ensuite, c'est inutile. Dans tous les cas, ça ne sert à rien. Et le pire de tout, l'insulte suprême, c'est arrogant. Comment on pourrait prétendre avoir raison et savoir ce qui est vrai ? Et ce matin, dans le texte qu'on va étudier, je vous propose de voir comment Pierre répond à ces questions. Et j'aimerais vous proposer de retenir ensemble que parce que la Bible est la parole de Dieu, alors je peux avoir confiance et marcher dans l'obéissance. Parce que la Bible est la parole de Dieu, alors je peux avoir confiance et marcher dans l'obéissance. Je vais lire dans la deuxième lettre de Pierre, premier chapitre, les versets 12 à 21. Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. J'estime juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels, car je sais, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, que mon départ de cette tente est imminent. mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous en souvenir. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La semaine dernière, on a étudié le tout début de la lettre et on a vu ensemble la vraie piété des enfants de Dieu. Et ce matin, on va voir la vérité de la parole de Dieu. Je vous propose ce découpage du passage. Restons vigilants en nous souvenant de ce que les apôtres ont vu et entendu Dieu a parlé à son Fils. De ce que les prophètes ont dit, Dieu a parlé par son Esprit. Restons vigilants en nous souvenant, les versets 12 à 15. Pierre sait qu'il va bientôt mourir, il nous le dit dans sa lettre. Pourquoi ? Parce que Jésus lui a fait connaître. Et en attendant, Pierre nous dit que son ministère consiste en des rappels. Regardez au verset 12. Vous rappelez ces choses. Verset 13. Mes rappels. Verset 15. Afin que vous puissiez vous en souvenir. Le but de Pierre, c'est de rappeler ces choses à ses lecteurs. Il veut leur rappeler la vérité présente. Verset 12. Mais de quoi il parle? Qu'est-ce que Pierre veut rappeler avec autant d'insistance à ses lecteurs? Et par là même, à nous. En fait, c'est tout ce qui vient juste avant. Ils veulent leur rappeler la puissance et la grâce de la vraie piété des enfants de Dieu. C'est ça l'objet du rappel pressant de Pierre. Il y a quelque chose d'intéressant qu'on remarque, c'est que Pierre veut leur rappeler toujours ces choses, bien qu'ils le sachent. Ce que Pierre veut rappeler à ses lecteurs, c'est ce qu'ils savent déjà. D'un côté, c'est un peu logique, vous allez me dire. Si on rappelle quelque chose, ben on le savait déjà. Oui, c'est logique, mais c'est un encouragement pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous montre que nous n'avons besoin que de rappels de ce que nous savons déjà, alors qu'on est tenté de toujours connaître de nouvelles choses, de toujours peut-être vouloir autre chose. Pierre nous rappelle que ce dont nous avons besoin, c'est de la puissance et de la grâce de l'Évangile. Comme on l'a dit la semaine dernière, Jésus a tout accompli et nous avons tout pleinement en lui. Besoin de rien d'autre. Jamais. Il est tout ce dont nous avons besoin. Et si Pierre veut leur rappeler ces choses, il nous dit au verset 13, c'est pour les tenir en éveil. Alors j'espère qu'en vous rappelant ces choses, moi aussi je vous tiendrai en éveil. Alors, c'est pas juste que il veut les empêcher de dormir de manière littérale. Et il le dit au début du chapitre 3. Je lis les deux premiers versets. Écoutez bien les mots-clés sur lesquels je vais insister. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Quand Pierre parle d'éveil ici, il entend ce que le Nouveau Testament entend généralement, Cet éveil, c'est se tenir prêt au retour de Jésus-Christ. Christ est venu et Christ reviendra. Et en attendant, il nous faut nous conduire comme il convient à des enfants de Dieu. C'est ce qu'il dit aussi un peu plus tard au chapitre 3, verset 14, il dit « Bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. » En résumé, ce que nous dit Pierre ici, c'est qu'il faut se souvenir pour rester vigilant. Se souvenir pour rester vigilant. L'enseignement de Pierre à ses lecteurs alors, à nous aujourd'hui, est toujours le même. Il veut que l'on soit actif en attendant le retour de Jésus-Christ. C'est ça son but. Et c'est de ça dont il parle au verset 16, quand il dit qu'il leur a fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez vigilants, restez éveillés en attendant le retour de Jésus-Christ. Alors, se souvenir de quoi ? De ce que les apôtres ont vu et entendu. Dieu a parlé à son Fils. Ça, c'est les versets 16 à 18 que j'aimerais voir avec vous maintenant. Pierre rappelle, c'est certain, Christ reviendra avec puissance. C'est ce qu'il avait lui-même annoncé. À la fin de l'évangile de Matthieu, il parle de ce retour en puissance. Il dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Ce retour de Jésus-Christ, ce n'est pas une invention des apôtres. Il répète ce que Christ leur avait annoncé, « Je reviendrai dans la gloire. » Et c'est cette vérité, nous dit Pierre, qui doit alimenter notre piété. C'est le fait que Jésus revient bientôt qui doit nous aider à vivre comme Dieu veut. Et c'est particulièrement fort dans le contexte de notre lettre. Pourquoi ? Parce que les faux docteurs contre qui Pierre écrivait remettaient en question cela. Il disait, Christ ne reviendra pas, donc en attendant, on peut faire ce qu'on veut. Mais Pierre le rappelle. Jésus est venu dans le monde pour sauver le monde. Et il reviendra dans le monde pour juger le monde. Et en entendant cela, certains adversaires accusaient Pierre de raconter des fables. On le voit au verset 16. Et le mot qui est rendu ici par fable, c'est le mot littéralement qui est un mythe. Ils accusent Pierre de raconter des mythes ou des mythos. Ils lui reprochent de raconter des histoires tout droit sorties de son imagination. Et Pierre leur dit, attendez, ce dont je vous parle, ce que j'annonce, ce que je vous répète parce que Jésus me l'a dit, ça ne sort pas de mon imagination. Mais ce dont je parle, j'en ai l'assurance parce que j'ai été témoin. Il peut annoncer la venue en puissance de Jésus parce qu'il a vu la majesté de Jésus, de ses propres yeux. Pas lui seulement, mais tous ceux qui étaient avec lui sur cette sainte montagne, il nous dit au verset 18. De quoi il parle ? De quel événement nous parle ici Pierre ? À quoi fait-il allusion ? Il parle de ce qu'on appelle le récit de la transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et ils montent sur une montagne. Et là, ils sont témoins d'une chose extraordinaire. Jésus qui est transfiguré devant eux. Son visage qui resplendit comme le soleil. Ses vêtements qui deviennent éclatants de blancheur. Et une voix venue du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et là-dessus, les disciples tombent sur leur face, contre terre, parce qu'ils sont saisis d'une crainte violente. Ils viennent d'entendre Dieu lui-même. Et Pierre nous dit « La gloire de Christ que j'ai vue lors de la transfiguration. Elle annonce la gloire de Christ quand il reviendra. Pierre était sur la montagne avec Christ. Il a vu de ses propres yeux. Est-ce qu'il a vu les mots qu'il emploie pour décrire Jésus? C'est les mots qui sont employés normalement pour décrire Dieu. Il a vu sa majesté, il a vu son honneur et sa gloire. Ce que Pierre est en train de nous dire, c'est qu'il a vu Dieu directement en voyant Jésus. Et non seulement il a vu, mais il a aussi entendu Dieu lui-même dire que Jésus était son fils bien-aimé. Petite parenthèse, si vous me le permettez. Je pars du principe que oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que Jésus est le fils de Dieu? Alors bien sûr, quand Dieu le Père ou Jésus parle du fait que Jésus est le fils du Père, il parle bien sûr de leur relation. Il parle de la dimension de relation qui existe entre les deux. Mais il y a plus que cela. Quand Jésus dit qu'il est le fils de Dieu, il est en train de dire qu'il est de la même nature que lui. Il y a un épisode assez parlant qui nous aide à saisir ça, très clair, dans l'évangile de Jean au chapitre 5. C'est le jour du sabbat, Jésus guérit, les juifs s'emportent contre lui, on n'a pas le droit de travailler le jour du sabbat. Que répond Jésus? Jésus répond, mon père travaille jusqu'à présent. Mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Le verset d'après, qu'est-ce qu'il nous dit? Jean nous explique. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, écoutez bien, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, ou quand Dieu le Père dit que Jésus est son Fils, ils sont en train d'affirmer que Jésus et le Père sont tous les deux Dieu. Dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est reconnaître qu'il est Dieu. Et c'est ce que fait Pierre ici. Fin de la parenthèse. Pierre a vu Jésus de ses propres yeux, il a vu sa gloire, il a entendu la parole de Dieu. Et dit tout cela, ce ne sont pas des fables. Ça ne sort pas de mon imagination. C'est mon expérience. C'est mon expérience, mais ce n'est pas seulement mon expérience. Il se dit, j'étais pas tout seul sur cette montagne. Il y avait avec moi Jacques et Jean, ça ce sont les évangiles qui nous l'apprennent. Ils étaient trois. S'il était tout seul, on aurait pu croire qu'il a inventé. La parole d'un témoin ne suffit pas. Mais on se rappelle qu'il faut deux ou trois témoins pour qu'un témoignage soit valide. Et c'est ça que la parole nous souligne. C'est que les deux ou trois témoins nous attestent la validité du témoignage. Et on se souvient avec ce texte que le christianisme repose sur des témoignages. Les chrétiens ne croient pas ce qu'on suppose être vrai, mais on croit ce qu'on nous a rapporté. Écoutez la manière dont Luc ouvre son évangile. Il dit, puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Luc, il ouvre son évangile sur quoi? Il ouvre son évangile en disant, tout ce que je vous dis, je ne l'invente pas. Je suis allé chercher ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le commencement. Et les spécialistes reconnaissent quand ils lisent la manière dont Luc dépeint les événements, la manière dont il les raconte, sa précision sur les lieux, sa précision sur l'histoire, sur qui était le gouverneur de telle ville, qui a fait quoi, quand. Les spécialistes reconnaissent qu'il fait un vrai travail de journaliste d'investigation. Pourquoi il le dit? Parce qu'il veut que Théophile, c'est sûrement la personne qui a payé pour ses recherches, il veut que Théophile soit certain de ce qu'il écrit. Les évangiles ne sont pas des fables inventées, mais ce sont le témoignage d'hommes et de femmes qui ont vu Christ guérir, Christ chasser des démons, Christ enseigner avec autorité, qui l'ont vu mourir et qui l'ont vu ressusciter le troisième jour. Les évangiles sont des témoignages oculaires. Et ce n'est pas seulement Pierre, Jacques et Jean qui ont vu Jésus une fois qu'il était ressuscité, mais c'est plusieurs centaines de personnes. Au chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens, Paul il explique aux Corinthiens, parce que certains disaient que Christ n'était pas ressuscité, il dit aux Corinthiens, mais attendez, si Christ n'est pas ressuscité, ça ne sert à rien tout ça. Notre foi est vaine. S'il n'a pas vaincu la mort, quel espoir avons-nous? Et comment style son argumentation? Comment Paul veut-il convaincre ses lecteurs de la véracité de la résurrection de Christ avec des témoignages oculaires? Il leur dit, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu, encore la transmission. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Pourquoi il dit ça, Paul, en passant? La plupart sont encore vivants. Il est en train de leur dire aux Corinthiens, si vous voulez, allez leur demander. Ils sont encore là. Il n'y a pas que moi qui le dis. On est des centaines. Allez leur demander ce qu'ils ont vu. Allez voir s'ils ont vu la même chose que moi. Et donc quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi. Et c'est d'ailleurs un des critères pour être apôtre, c'est d'avoir connu Jésus-Christ. Et remarquez ce que Paul met en avant pour appuyer son enseignement. Il dit, une fois ressuscité, Jésus a été vu par les apôtres et par plus de 500 personnes. Deuxième argument, sa mort et sa résurrection sont les accomplissements de l'Écriture. Et donc Paul nous dit la même chose que Pierre dans notre passage. La certitude de l'enseignement de la Bible repose sur le témoignage oculaire des apôtres et sur l'accomplissement des prophéties de l'Écriture. Et c'est notre prochain point. Ce que les prophètes ont dit, Dieu a parlé par son esprit, les versets 19 à 21. Entre nous, franchement, quand je commence une phrase comme ça, on dirait que je vais dire une bêtise, mais non. Honnêtement, qui n'aurait pas aimé être sur cette montagne? Hein? Est-ce qu'on n'aurait pas voulu voir de nos propres yeux la gloire de Christ? En plus, c'est beaucoup plus facile de croire quand on voit ce que Pierre a vu. C'est ce que me disait le deuxième covoitureur qui était devant moi. Moi, je crois que ce que je vois. Si je croyais, si je verrais, si je voyais. Je ne vous cache pas que je dors moins depuis quelques jours. Si je voyais, je croirais. Si seulement je pouvais voir Dieu. Si seulement je pouvais l'entendre. Mais Pierre nous dit quelque chose d'extraordinaire ici. Verset 16-17, il dit « Moi, j'ai vu et j'ai entendu. Et je te dis, verset 19, la prophétie de l'Écriture est d'autant plus certaine. Pour Pierre, la parole prophétique est d'autant plus certaine. Certaines traductions rendent le mot par ferme. Le terrain de la prophétie de l'Écriture est solide. On peut s'appuyer dessus. Pas de crainte de s'enfoncer. Pourquoi elle est certaine? Pourquoi on peut faire confiance dans cette parole? Pourquoi on peut faire confiance dans les prophéties de l'Ancien Testament? C'est ça que Pierre avait en tête. Pourquoi on peut faire confiance par extension à toute la Bible? Pierre nous donne la réponse dans les versets suivants. Tout simplement parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Le verset 20, un peu compliqué à comprendre. Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autres ont, dans leur version peut-être, n'est une affaire d'interprétation personnelle. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre la Bible et qu'il faut quelqu'un qui nous explique vraiment ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir d'interprétation personnelle? Si c'était le cas, il faudrait tout de suite arrêter les cours, mieux comprendre ce que Dieu dit. Parce que ce verset, il nous dirait, ça ne sert à rien. Mais en fait, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que ce n'est pas ce que la Bible dit par ailleurs. Et ce n'est pas non plus ce que Pierre dit un peu plus loin. Dans ce verset dont j'avais déjà parlé, dans 2 Pierre 3,16, il parle des lettres de Paul. Et il dit que dans les lettres de Paul se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Pierre nous rappelle, et c'est ce qu'il nous rappelle dans toute sa lettre, non, au contraire, on a besoin d'apprendre à mieux comprendre la Bible. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas tordre le sens. Parce que tordre le sens, ce n'est pas juste penser des choses fausses. Tordre le sens de la Bible, tordre le sens de l'Évangile, ça mène à la perdition. C'est ce que nous dit Pierre ici. Alors, qu'est-ce qu'il dit s'il ne dit pas ça? En fait, le verset 20 répond à une objection que pouvaient avancer les faux docteurs. Ces faux docteurs pouvaient dire, les prophéties, ce ne sont que des paroles humaines. L'Ancien Testament, ce ne sont que des paroles humaines. En fait, les prophètes ont interprété eux-mêmes leur vision. Tout ça ne vient pas d'eux. Tout ça ne vient pas de Dieu, mais vient d'eux. Et ça les arrangeait bien de dire ça. Parce que si les prophéties n'étaient que des paroles humaines, alors pas besoin d'écouter ce qu'ils disent. Alors on peut faire ce qu'on veut. Et aujourd'hui, 2000 ans après, ça pose une question cruciale pour nous aujourd'hui. Si la Bible n'est qu'une parole humaine, alors je fais ce que je veux. Par contre, si la Bible est la parole de Dieu, alors je ne peux pas faire autrement que de m'y soumettre. C'est soit l'un, soit l'autre. Et vous vous rappelez, on retrouve ce fameux argument du relativisme. Chacun sa vérité. Pour les relativistes, il n'y a pas de fait objectif, que des interprétations subjectives. Pour les relativistes, tout est subjectif. Alors, certaines choses sont relatives, comme par exemple la perception du temps. Je vous l'ai dit, depuis la naissance de Léon, le temps est subjectif. Le sommeil est devenu aussi une notion très relative. Blague à part, on ne peut pas être un relativiste cohérent. Déjà, on a un problème théorique. Quand quelqu'un nous déclare qu'il n'y a pas de vérité objective, il est en train d'établir une vérité objective. Il se tire une balle dans le pied. Ensuite, on a un problème pratique. Et c'est peut-être ça qu'on voudra mettre en avant avec les personnes avec lesquelles on discute, ce que moi j'ai mis en avant avec ce covoitureur. Est-ce que vous avez déjà essayé une recette de cuisine relativiste? ajouter 500 g de sucre, battre la pâte, étaler dans le fond et enfourner pendant... ça dépend. Qui est-ce qui aurait envie de goûter cette tarte relativiste? Imaginez un GPS relatif tourné dans à peu près, ça dépend, 3 km. Pire, imaginez que vous venez de faire réviser les freins de votre voiture. Vous demandez au garagiste, alors c'est bon, tout est en place? Il vous répond, pour moi c'est bon. Alors vous le regardez avec un air un peu plus insistant, vous dites, c'est bon ou c'est pas bon? Ça dépend pour qui, pour moi ça va. On n'a pas envie d'aller voir des garagistes relativistes. La vérité avec tous ces exemples, c'est que on ne peut pas vivre sans absolu. On ne peut pas vivre sans être certain que ce que l'on sait, on le sait. Que ce que l'on sait est sûr. Et c'est ce que nous dit Pierre ici, il nous dit, cette parole, elle est certaine. Cette parole, elle est ferme. Ce n'est pas un sable mouvant. Ce n'est pas un lac gelé avec un centimètre. Elle est ferme. Ce n'est pas l'affaire de l'imagination de l'homme. Ce n'est pas le produit de la pensée humaine. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est solide. C'est pour ça qu'elle est certaine. C'est pour ça qu'elle est ferme. C'est ce que Pierre développe dans les deux derniers versets. Il nous dit, les prophéties ne sont pas le résultat de l'imagination, de la volonté humaine, mais de l'action de Dieu. Il nous dit, c'est poussé ou porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'idée, c'est celui d'un navire qui est poussé par le vent. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est certaine. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que l'Écriture dit, c'est Dieu qui le dit. C'est-à-dire que quand on lit la Bible, on entend Dieu parler. On lit les paroles même de Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Et c'est ce qui a changé la vie de Rachida. On en a été les témoins hier. C'est ce qui a changé aussi nos cœurs et notre attitude avec l'équipe d'Offmo. On en a parlé tout à l'heure. C'est ce qui a changé la vie de Maurice. C'est que c'est la parole de Dieu qui est sûre, qui est certaine et qui perce les cœurs. Les hommes peuvent mentir, les hommes peuvent se tromper, mais pas Dieu. Sa parole est droite et sa parole est vraie. Et tout ce qu'il dit s'accomplit invariablement. Ses promesses se réalisent. Plus de 2000 promesses se sont accomplies dans le Nouveau Testament, dont plus de 300 prophéties concernant Jésus. Cette parole est certaine, elle est sûre, c'est un terrain solide. Et c'est pour ça que Pierre exhorte ses lecteurs à y prêter attention. Verset 19, vous faites bien de prêter attention. Et quand il dit vous faites bien, c'est un peu une manière polie de dire vous feriez mieux. Vous feriez mieux de faire attention à cette parole. Au lieu d'écouter les fausses doctrines de perdition, des faux docteurs, ces mensonges, vous feriez mieux de prêter attention à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est venu selon les Écritures et qu'il reviendra selon les Écritures. Et il nous dit, cette parole, elle est non seulement certaine, mais elle est utile. Pierre nous dit qu'elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Elle nous éclaire, elle nous guide. Et notre volonté, encore aujourd'hui, c'est de nous attacher à l'Écriture, de nous plonger dans l'Écriture pour que Christ, l'étoile du matin, quand il est dit l'étoile du matin ici, il parle de Christ, l'étoile du matin, se lève dans notre cœur. C'est cela que nous voulons faire ensemble. C'est cela que nous faisons maintenant, ce matin. Par la parole de Dieu, Christ vient habiter dans nos cœurs. On a dit que pour nos contemporains, affirmer que la Bible est la parole de Dieu, c'est naïf, inutile et arrogant. Avec Pierre ce matin, on a vu que les questions des relativistes de son temps et de ceux de notre temps sont les mêmes. Et les réponses sont les mêmes. On peut connaître la vérité parce que Dieu se révèle dans sa parole. Cette parole est le moyen par lequel Christ vient briller dans notre cœur. Et notre assurance ne vient pas de notre arrogance. Notre assurance vient du témoignage sûr et certain des témoins oculaires que sont les apôtres. Du témoignage sûr et certain des prophètes qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Et ensemble, ce matin, on peut dire que parce que la Bible est la parole de Dieu, alors je peux avoir confiance et marcher dans l'obéissance. Parce que la Bible est la parole de Dieu, je peux avoir confiance et marcher dans l'obéissance. Je conclue avec des mots que j'emprunte à Kevin DeYoung, qui écrit un excellent livre sur la Bible, magnifique, s'appelle « Croire Dieu sur parole », que vous trouverez sur le stand de l'AMB. Je vous le recommande chaleureusement. Et il dit ces mots, « Vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire de Dieu en plus de la Bible. Vous pouvez écouter la voix de Dieu chaque jour. Si le Christ parle encore aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit a déjà parlé. Si vous voulez entendre Dieu vous parler, tournez-vous vers le livre qui contient uniquement ce qu'il a dit. Plongez-vous dans la parole de Dieu. Vous ne trouverez rien de plus certain. » Je vais prier. Merci Père Céleste parce que tu nous as donné ta parole par laquelle nous te connaissons et nous connaissons ton Fils. Seigneur, merci parce que cette parole est certaine. Nous pouvons lui faire confiance, elle vient de ta bouche même. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. C'est parce qu'ils ont vu et entendu Christ que nous pouvons avoir confiance dans ce qu'ils disent. Seigneur, merci de ne pas nous laisser errer, de ne pas nous laisser chercher, mais de nous rappeler que Christ a tout accompli et que nous avons tout pleinement en lui. Aide-nous, Seigneur, à nous plonger dans ta parole. Que ta parole vienne nous reprendre, nous relever, nous réconforter, nous faire du bien, Seigneur. Et donne-nous l'assurance de proclamer haut et fort que la Bible est ta parole et que c'est par elle que nous te connaissons. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Ta parole est encore l'expression de ta grâce et de ta bonté envers nous. Et on veut te dire merci Seigneur. Amen.